Nous vous proposons aujourd'hui trois tables rondes. Une table ronde sur l'activité de travail, une autre sur les résidences d'artistes, une autre encore sur la critique sociale du travail. Et pour démarrer cette journée, nous avons invité, en collaboration avec le FRAC, Camille Richer, qui va vous présenter l'histoire des représentations contemporaines du travail depuis les années 70 et en Occident. Et Camille Richer, vous êtes docteur en histoire de l'art, enseignante à l'ENSBA de Lyon, chercheuse associée au Centre d'histoire de Sciences Po et co-commissaire de la triennale Art et Industrie Chaleur Humaine. Camille, c'est à vous.
Eh bien, permettez-moi tout d'abord de vous remercier chaleureusement pour cette invitation. Merci à l'équipe de Travail et Culture. Vous l'aurez compris, je n'interviens pas aujourd'hui dans le cadre de ces rencontres en tant que co-curatrice de la triennale Art et Industrie, mais en tant qu'historienne de l'art, bien que ce soit toutefois mes recherches qui m'aient conduite à assurer en partie ce commissariat d'exposition en raison de ces thématiques communes entre donc, le travail et les énergies. Vous l'aurez compris, donc j'ai écrit ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2021 sur les représentations du travail dans l'art contemporain, donc depuis 68 dans l'espace productif occidental. Dresser un panorama exhaustif de la production artistique qui aurait pris en charge la question du travail, le motif du travail pendant plus de 5 décennies, disons que ce serait une gageure de penser couvrir tout ça aujourd'hui. Et ça a été également un défi quand il s'est agi donc d'écrire cette thèse de doctorat, qui donc s'est essentiellement intéressé à des œuvres issues, donc plus de 300 œuvres issues de collections publiques et privées, des collections donc occidentales, donc européennes, ouest-européennes et nord-américaines. Donc j'ai mené ces recherches dans une trentaine de collections, donc comme je vous disais, des collections privées pour une minorité et publiques dans leur grande majorité, que j'ai interrogées selon toute une série de mots-clés donc, qui faisaient partie du champ lexical des mondes du travail, donc ce soit le travail, l'emploi, le labeur, mais également ses envers, que ce soit le chômage, la retraite, la grève, la révolte, la manifestation, et ensuite toute une typologie de termes qui avaient trait aux métiers, à des métiers divers et variés, à des catégories de métiers. Donc ça a fait surgir plusieurs centaines d'œuvres, je dirais même des milliers d'œuvres sont apparues quand j'ai mené ces recherches. Alors ça n'a pas été uniquement un travail, disons, de décortiquage ou en tous les cas d'interrogation, de questions posées à des bases de données. C'était aussi un travail, disons, d'observation, de fréquentation, d'être pied à pied avec la scène de l'art contemporain, non seulement en France, mais à l'étranger. Et donc c'est comme ça que j'ai réuni tout un corpus qui a in fine fait plus de 300, entre 300 et 350 œuvres. Et Une fois que j'ai eu toutes ces œuvres en main, eh bien, il faut leur poser des questions. Il faut regarder ce corpus et poser des questions au corpus en se demandant quelles sont les œuvres qui représentent effectivement le travail déjà ou son absence. Peut-être une précision, j'ai écarté de tous les résultats les œuvres qui portaient, disons, uniquement sur la question du travail artistique. J'entends par là sur le métier d'artiste. Donc quand il s'agissait vraiment d'interroger une seule profession, le métier d'artiste, c'était des œuvres qui n'étaient pas forcément au cœur de mes préoccupations. Parce que pour moi, l'important, c'était de me concentrer sur une question. Qu'est-ce que les artistes ont représenté de ce fait social total, pour reprendre, disons, cette expression souvent employée de Marcel Mauss. Qu'est-ce que les artistes donc ont représenté de ce fait social total qu'est le travail? Qu'est-ce qu'elles et ils ont donné à voir de l'une des expériences sociales les plus communément partagées dans l'espace productif capitaliste? Et comment, en fait, on donne à voir l'espace social donc réellement vécu dans l'espace des représentations. Si on reprend là par exemple les concepts de l'historienne d'art Griselda Pollock, qui met en corrélation donc espace social et espace des représentations. Et donc si on part de l'idée qu'une représentation c'est une image construite, que c'est une présentation au carré d'un fait, que toute image n'est pas le réel mais son double, pour citer le titre d'un ouvrage du philosophe Clément Rosset, Alors, quel filtre, quelle, en quelque sorte, concaténation, quelle concentration de sens ont produit les artistes contemporains concernant les mondes du travail ? Et donc, c'est cette question que j'ai adressée aux œuvres que j'avais identifiées en me demandant de quelle nature était le regard artiste sur les mondes du travail. Comment celles et ceux-ci les percevaient et quelle forme d'intelligibilité proposaient les œuvres portant sur cette thématique. Et en somme, qu'apportent les artistes à la compréhension du travail et en quoi ces représentations peuvent être considérées comme des sources de l'histoire. Je le disais un petit peu plus tôt, donc les œuvres que j'ai identifiées dans les différentes collections, elles sont absolument pléthoriques, et toutes les traiter auraient été impossibles, et croire en la perfection d'un corpus et de sa complétude, ça aurait été une illusion. Et donc c'est pour ça qu'à partir de mes trouvailles dans ces différentes collections que je citais, j'ai tenté de penser quelles étaient les lignes de force qui se dégageait à mesure que l'on avance le long du fil du temps, le long du fil de l'histoire. Qu'est-ce qu'on représente à telle époque plutôt qu'à une autre ? Qu'est-ce que ces représentations disent à la fois de l'époque, mais aussi de la vision que portent les artistes à telle époque sur le travail ? Et qu'est-ce qu'en retour, ces représentations, elles vont faire au champ social ? En quelque sorte, comment ces représentations tendent un miroir et peuvent influer, modifier la réalité des rapports sociaux ? Donc il y a un peu moins d'une heure aujourd'hui qui m'est offerte pour brosser à grands traits les enjeux de ces représentations du travail. Donc permettez-moi de les condenser dans quelques thématiques et de prendre surtout quelques exemples pour qu'on puisse partager une vision d'ensemble. Et donc c'est un exercice, comme vous l'aurez compris, qui comporte un certain nombre de limites. Et je ne doute pas que les contributions et les interventions des invités à ces rencontres aujourd'hui viendront compléter et surtout apporter de nombreuses autres perspectives et problématiques à ce propos qui se veut surtout synthétique ce matin, comme une sorte de pied à l'étrier à cette journée qui s'annonce absolument passionnante. Pour commencer et expliquer, justifier donc la borne ouvrante de mon étude, qui est l'année 68, j'aimerais évoquer trois parcours d'artistes en chiasme, trois collectifs qui vont prendre des décisions de carrière qui vont être éthiquement et intimement liées aux représentations des mondes du travail. La première artiste, c'est Charlotte Posenenske, qui en 68 employait un vocabulaire va décider en fait de mettre fin à sa carrière, et donc c'est une artiste qui employait un vocabulaire de forme et de matériaux industriels et qui in fine va rédiger un manifeste qui n'a pas pour fonction d'être la colonne vertébrale de sa pratique mais de clôturer donc cette carrière. Elle était en effet déçue par l'incapacité de l'art moderne à procéder, je cite, à la résolution des problèmes sociaux urgents. Et donc elle abandonne son métier d'artiste pour se consacrer à un autre métier, celui de sociologue du travail. Au même moment, il y a une autre artiste, donc Charlotte Posenenske est une artiste, disons, conceptuelle allemande. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, vous avez au même moment donc Mirley Lader-Magnokeles, qui va rédiger elle aussi un manifeste. Et ce manifeste, il est rédigé au tout début de sa carrière, donc c'est une artiste qui, elle, est formée sur toute la scène new-yorkaise conceptuelle, et elle va vite se rendre compte que le fait d'être une femme, le fait d'être une mère et le fait d'être une épouse vont constituer des freins au développement de sa carrière. Et donc elle décide qu'elle va, disons, pratiquer, avoir un geste assez du champion. Elle va décider que désormais, tout ce qu'elle fait comme travail de soin, c'est-à-dire s'occuper de son enfant, s'occuper de l'intérieur, faire en sorte que le travail de reproduction, c'est-à-dire autant l'alimentation que s'occuper de son enfant, que toutes ces tâches-là, en fait, ce soit son travail artistique, que tout ça devienne du travail artistique. Et donc c'est en ça que consiste son manifeste, ce manifesto for maintenance art, donc manifeste pour un art de la maintenance. C'est en ça que consiste ce fameux manifeste qu'elle rédige donc concomitamment à celui que rédige Charlotte Posenenske, que je citais juste avant. Troisième exemple d'artiste que je voudrais citer, donc qui vous montre à quel point les années 68 sont des années particulièrement, disons, aiguës autour de la question des représentations du travail. Les troisièmes, ce seraient les groupes Medvedkine, donc de Sochaux et de Besançon. un groupe qui, donc, à Besançon en particulier, va naître de l'amitié entre un ouvrier, Paul Seb, qui est employé dans une usine textile, Rodia Seta, et qui se met à collaborer avec Chris Marker. Ils réalisent ensemble, à bientôt, j'espère, qu'ils vont projeter à l'usine. La réaction des ouvriers, elle est assez mitigée, en tous les cas, elle est assez critique. Et à partir de là, Paul Seb et Chris Marker vont décider de mettre sur pied une méthodologie de travail qui va consister en proposer aux ouvrières et aux ouvriers de prendre la caméra et de se saisir des moyens de réaliser leur propre film pour parler d'eux-mêmes, mais surtout se montrer eux-mêmes, être les auteurs et autrices de leurs propres images, des images d'elles-mêmes. Donc les années 68, pour reprendre l'expression de l'historienne et de l'historien donc Michel Zancarini-Fournel et Philippe Artière, ces années 68, elles ont non seulement constitué une charnière de contestation sociale, mais elles ont aussi eu des conséquences importantes sur les pratiques artistiques occidentales et sur leur manière d'aborder la fonction sociale de l'art, a fortiori en ce qui concerne ce thème du travail. Et c'est comme le qualifiait donc le sociologue Immanuel Wallerstein, c'est une révolution mondiale qui se produit autour de 68, qui, en termes d'échanges intellectuels et culturels, va créer des liens très forts entre donc, l'Europe et l'Amérique du Nord et donner naissance à tout un spectre commun de références théoriques et de champs référentiels qui va être partagé autant donc, chez les théoriciennes et théoriciens que chez les artistes y compris. Tous les exemples que je citais de Charlotte Posadenske, Mirley Laderman-Ukeles ou les groupes Medvedkin en sont quelques-uns des indices. Et pour progresser donc le long de cette ligne du temps jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à donc décembre 2023, enfin on n'ira pas jusqu'à décembre 2023 non plus, je vous propose de considérer quelques grands thèmes qui dessinent toute une histoire du regard qui a été porté par les artistes sur les représentations du travail. Et j'essayerai tout au long de cette présentation de souligner la dimension internationale de ces préoccupations et critiques artistiques. Tout en puisant donc à la fois dans des pratiques ouest-européennes et nord-américaines. Quand on évoque la date de 68 et qu'on y associe le terme de travail, bien sûr, viennent immédiatement à l'esprit les contestations ouvrières. Et si celles-ci, elles ont été particulièrement vives en France, peut-être un peu plus, par exemple, qu'en Allemagne, où mai 68 a été une révolte essentiellement portée, davantage portée par les intellectuels, alors qu'en France, on a eu cette particularité d'avoir ouvriers, intellectuels et étudiants qui se sont fédérés. En tout cas, donc, quand on associe mai 68, la date de 68 au terme de travail, on a immédiatement ces contestations qui viennent en tête. Et donc 68 a suscité un regain de contestation qui a imprégné les arts visuels. Alors, ce qui est important de dire, évidemment, c'est que ce n'est pas mai 68 qui a fait naître les représentations, l'iconographie de révolte. Et ces représentations, elles sont évidemment tout à fait prégnantes depuis le 19e siècle. Et à ce titre, je ne peux que recommander la lecture de l'ouvrage de l'historienne Nina Ferrer-Glaise. Donc c'est un ouvrage qui s'intitule « L'agriculture comme écriture ». Un formidable ouvrage qui est issu de sa thèse et dans lequel elle prend pour fil rouge la peinture de Jean-François Millet. Et pour elle, en fait, c'est le régime républicain qui va contribuer à légitimer les représentations des gens du peuple et partant, et par conséquent, des mondes du travail. Et elle va s'intéresser en particulier au monde paysan que donc dépeindront tant Millet que par exemple Van Gogh avec ses mangeurs de pommes de terre que vous voyez à droite ou Pissarro et ses deux jeunes paysannes que vous voyez en bas à gauche. Donc elle va je vous laisserai découvrir cet ouvrage, il est particulièrement bien écrit et donc voilà. Ce qu'elle explique dans cet ouvrage, c'est que c'est la question du régime républicain, en particulier en France, qui rend possible une floraison, une profusion de représentations du peuple et, en l'occurrence, des mondes du travail. Et donc, elle parle essentiellement du monde paysan, mais en fait, il en va tout autant du monde ouvrier, dont les représentations vont se démultiplier à mesure que les sociétés dans lesquelles les artistes évoluent se démocratisent peu à peu. Et si en France, on peut penser par exemple à des gens comme Paul-Louis Delance qui vont dépeindre la grève à Saint-Ouen, on va retrouver en Italie Giuseppe Pellizza da Volpedo, dont vous voyez l'image en bas à gauche, qui dépeint donc Il Quarto Stato, une immense toile qui est conservée à Milan. Käthe Kollwitz, que vous voyez à droite, qui va représenter donc à travers une eau forte une révolte des tisserands. Donc c'est une eau forte qui a été réalisée entre 93 et 98. Et vous avez aussi donc le peintre allemand Robert Koehler qui se penche sur l'industrie belge avec la grève au pays de Charleroi, donc en haut à gauche, une huile sur toile qui est réalisée en 86. Donc là, ce ne sont que quelques exemples parmi un corpus qui est bien plus vaste. Et ces œuvres, elles peuvent être lues par rapport à un enjeu croisé et républicain et de critique du capital. Je reviens à mon année 68. Donc, je vais vous montrer ces quelques images pour bien insister sur le fait que voilà, la question de la représentation des révoltes, elle n'est évidemment pas le propre de 68, mais que 68 fédère, accélère, condense ces représentations. Et donc, 68, à ce titre singulier que l'année connaît des formes contemporaines de révolte autant que de transgressions idéologiques, je le disais. Et dans les représentations de 68 et des années qui suivent, on ne va plus parler tellement d'une vision du monde qui est, disons, patinée par la question de l'exploitation, mais ça va davantage être la question de l'aliénation qui va être mise en valeur dans les œuvres qui sont réalisées. Et donc ça va être l'enjeu visuel pour bien des artistes. Et permettez-moi de revenir un tout petit peu sur une œuvre des groupes Medvedkin, et en particulier par exemple sur Avec le sang des autres, qui est réalisé avec Bruno Muel en 74. Et donc j'aimerais revenir sur cette œuvre pour signifier l'une des stratégies visuelles qui est employée par des artistes pour faire éprouver donc cette aliénation et non plus seulement cette exploitation. Donc, comme je l'évoquais, le modèle de production d'œuvres filmiques des groupes Medvedkin, il est collaboratif. Ce sont les ouvrières et les ouvriers qui passent derrière la caméra accompagnés d'un réalisateur. Et les premières minutes du documentaire, donc ici c'est Bruno Muel en l'occurrence, les premières minutes du documentaire, de ce film, disons plus généralement, Avec le sang des autres, s'ouvrent sur un rassemblement du 1er mai à proximité de l'usine Peugeot, donc à Sochaux. Il y a une fanfare qui entonne il y a une fanfare qui joue, il y a un chant qui est entonné. Et ce chant, il fait honneur à la grève devant un public ouvrier qui se masse et qui croit au fil des minutes. Mais ce que le groupe Medvedkin et Bruno Muel vont montrer juste après cette ouverture, ça va être une toute autre réalité. C'est que une fois que cette fête du travail est finie, ils vont montrer l'organisation spatiale et urbanistique de Sochaux autour de l'usine Peugeot et cet éclatement de l'urbanisme qui a été pensé très précisément pour que aucun ouvrier et ouvrière ne puisse rejoindre les quartiers où vivent les autres. Ce qui est montré dans ce film et ce qui est extrêmement bien documenté, c'est comment on fait pour que aucun transport collectif puisse permettre toute mobilisation, toute fédération. Donc la construction de cette œuvre, elle repose sur la fragmentation et du temps de travail, parce que donc vous avez les 3-8 qui sont réalisés à Peugeot. Donc c'est une manière de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de solidarité, et sur une fragmentation du temps et de la communauté comme étant une stratégie de maintien de l'ordre. Et donc tout ça fait finalement tomber en désuétude la scène d'ouverture, celle du rassemblement joyeux et solidaire. J'aimerais également évoquer une autre œuvre, une œuvre vidéo réalisée par Carole Roussopoulos, Les prostituées de Lyon parlent, qui est une œuvre de 75. Les prostituées de Lyon, à ce moment-là, se mettent en grève en 75 et elles vont aller se réfugier dans l'église Saint-Nizier, qui est une église de la Presqu'île, dans le 2e arrondissement de la ville. Ce qui se produit, c'est que Carole Roussopoulos, elle a bien compris une chose, c'est que les prostituées, si elles sortent, elles risquent de se faire à nouveau arrêter par la police, parce qu'évidemment, le métier est prohibé. Or, ce que revendiquent les prostituées, c'est justement une reconnaissance et des droits sociaux. Et donc, quelle est la stratégie artistique que va mettre en place Carole Roussopoulos? C'est qu'elle va les filmer à l'intérieur de l'église, puisqu'elle est acceptée parmi les protestataires, parmi les grévistes. Elle les filme. Et à l'extérieur de l'église, il y avait un dispositif. Alors, oui, pardon pour le Getty Images, mais il n'y a pas vraiment de meilleures images qui existent que j'ai pu retrouver. Et donc, à l'extérieur de l'église Saint-Nizier, il y avait tout un dispositif de retransmission, soit en direct, soit en différé, des images qu'elle réalisait, en vidéo. Et tout ça, donc, c'était fait pour que ces prostituées elles puissent s'exprimer librement, qu'elles ne risquent pas de tomber sous le coup de la police, et que les publics, enfin, les badauds, les passants dans la rue, puissent prendre connaissance de ce qu'elles avaient à dire. Et donc là, c'est une œuvre à nouveau qui compte, enfin qui fonctionne beaucoup sur la participation de ces travailleuses pour sa production. Une autre œuvre qu'on connaît bien dans cette région, puisqu'elle est conservée aux archives du travail de Roubaix, donc, que j'aimerais évoquer donc, à propos des luttes, c'est donc, les fameux objets de grève de Jean-Luc Moulin, donc une série d'œuvres qui en fait est une série de photographies à partir d'objets de grève littéralement, qu'il a collectées en parlant à des personnes qui étaient susceptibles d'en connaître et d'avoir connu donc, des ouvriers qui en avaient produit. Jean-Luc Moulin m'avait raconté il y a quelques années qu'il avait commencé cette série et cette collecte d'objets de grève en parlant à son chauffeur de bus de la RATP qui en avait parlé, à machin qui en avait parlé, à une autre personne et à une autre personne, etc. Et en fait, les objets lui étaient revenus. Il a fait cette collection, il a fait cette prise de vue de tous ces objets. Et donc, ce qu'il montre à travers cette pièce, c'est non seulement le fait de détourner l'outil productif pour réaliser donc, des objets, non seulement avec le matériau, mais aussi avec les outils et dans l'espace de travail contre lequel on fait grève d'une certaine façon. Mais en plus de ça, voilà, il y a toute une démarche qui a sous-tendu la constitution de cette œuvre, qui est comptée sur la solidarité, le bouche à oreille des ouvrières et des ouvriers qui avaient conservé, donc par exemple, ces cigarettes, les pantinoises, donc les gauloises, ou bien cette poêle que vous voyez au milieu, ou bien ce parfum de solidarité, comme il s'est bien dit à gauche. Donc le point commun de toutes ces stratégies pour représenter les révoltes, c'est en effet d'associer les révoltés à la production de l'œuvre. Et c'est là l'une des stratégies notoires et particulières, je dirais, de ce qui se passe à partir de 68 dans les représentations du travail. C'est que ces œuvres, elles font plus seulement la louange ou le procès des conditions de travail, mais elles tentent de faire des travailleurs et des travailleuses des co-auteurs ou des coproducteurs des œuvres. Il y a une autre chose qui me semble assez fondamentale à évoquer au sujet de l'histoire des représentations du travail, c'est la place du travail des femmes dans les modifications des stratégies qui sont employées par les artistes pour représenter le travail. C'est littéralement donc à la fois le travail des femmes, mais aussi l'insertion des femmes croissantes dans les métiers artistiques qui vont bouleverser les façons de représenter le travail. C'est, je pense, donc, comme je vous disais, l'un des traits les plus significatifs, à mon sens, des représentations du travail dans l'art contemporain. Et bien sûr, c'est non seulement les révoltes de mai 68 qui ont, disons, catalysé tout cela, et évidemment, plus largement, le mouvement féministe, et de libération des femmes. Mais il y a une profusion à ce moment-là, sans précédent, d'œuvres qui vont dénoncer non seulement le carcan de métiers dits féminins, mais surtout et même avant tout, l'absence de reconnaissance de la nature laborieuse de bien de leurs activités domestiques. Et donc ça va être essentiellement des artistes féministes qui vont faire voir, je dirais, le travail invisible de soins et de reproduction conduit par les femmes. Et à ce titre, il y a une exposition qui vient d'ouvrir à la Tate qui s'intitule Women in Revolt, qui couvre la période des années 70 à 90, qui donc s'intéresse particulièrement à ces artistes femmes qui se sont révoltées contre les images qu'on faisait d'elles, et notamment le mépris qu'on avait envers leurs tâches et qu'on ne reconnaissait pas comme étant du travail. Je l'évoquais en introduction, donc il y a donc Mirley Lader-Manukeles qui a été une artiste importante à ce sujet. Ici, là, c'est une œuvre qui s'intitule Touch Sanitation, qu'elle va réaliser donc, en tirant parti de ce manifeste. Donc le manifeste que je vous évoquais, qu'elle établit à partir de sa propre expérience de femme, de mère et d'épouse. Une expérience donc qu'elle fait et qui lui fait prendre conscience qu'elle ne va jamais devenir artiste si elle ne réussit pas à intégrer toutes ses activités domestiques et de soins, ses tâches ménagères, comme étant au principe même de sa production artistique. Et donc là, pour cette œuvre Touch Sanitation, elle va décider d'étendre son manifeste à la gestion des déchets et elle va aller pendant 4 années, serrer la main de tous les éboueurs du district de New York, histoire de faire valoir non seulement son travail invisible à elle, mais aussi tout le travail invisible et méprisé de l'entretien et de la propreté à New York. Une autre œuvre qui, je pense, est assez intéressante à cet égard, c'est une œuvre de Michel Journiac, une œuvre qu'on connaît plutôt bien, qui s'intitule donc 24 heures dans la vie d'une femme ordinaire, réalisé donc en 1974. Et Michel Journiac va interpréter le rôle de cette femme ordinaire en mettant en scène des clichés de leur vie et de leur fonction. Donc l'œuvre, elle se compose de deux ensembles de 12 images qui matérialisent au total donc les 24 heures de... On pose peut-être des questions après pour que je finisse d'expliquer certaines choses. Donc il y a les 24 heures qui sont couvertes par deux séries de 12 photos. Et d'un côté, il y a 12 fantasmes et de l'autre, 12 entre guillemets réalités parmi lesquelles vous avez à minima 3 images, 3 photos qui vont prendre en charge les tâches ménagères. Et Michel Journiac, en fait, va se mettre dans une situation de travestissement et de caricature de l'impensé de la société envers le travail non rémunéré de ménage qui incombe essentiellement encore aux femmes à cette époque. Une autre... Pardon ? Je suis bien d'accord avec vous. On poursuit cet échange tout à l'heure. Merci. J'aimerais aussi souligner la pratique du collectif Féministo, qui lui aussi s'est intéressé à ces questions de, disons, clichés de ce que ce sont des tâches de femmes. Et donc ce collectif, c'est un collectif qui était un collectif d'artistes qui était dispersé, qui n'était pas centré, disons, basé à Londres. Donc, c'est un collectif britannique, hein, vous l'avez compris. Et donc, ce collectif d'artistes femmes qui était disséminé à différents endroits de Grande-Bretagne a décidé de procéder à des échanges par voie postale d'œuvres, puisqu'elles n'avaient pas les moyens de se réunir, puisqu'elles étaient des mères qui n'avaient pas autant de possibilités de se déplacer, de faire garder leurs enfants qu'elles le souhaitaient. Elles ont décidé de faire des choses qui étaient des petites choses qu'elles pouvaient s'envoyer par voie postale, qui en fait étaient des caricatures de leur propre vie. Donc c'était à la fois du crochet qui représente des œufs au plat et qu'elles pouvaient donc empaqueter, plier, mettre dans des enveloppes et s'envoyer les unes aux autres. C'est une œuvre qui m'a fait repenser à cette œuvre que vous devez évidemment très bien connaître, celle d'Annette Messager, les fameux pensionnaires, donc qui sont ces petits oiseaux empaillés pour lesquels l'artiste a crocheté donc des petits manteaux. Là aussi, donc c'est une œuvre qui vient en quelque sorte titiller une chose, à la fois la question de la maternité, du soin, du fait que les femmes naturellement s'occuperaient des enfants sans que ce soit reconnu comme réellement du travail, et donc toutes les tâches qui viennent à côté, c'est-à-dire, comme je disais, la question de l'entretien et de la reproduction, et en l'occurrence, reproduire, ce n'est pas uniquement enfanter, mais aussi tout simplement faire en sorte que de maintenir la vie, et en l'occurrence... Ben, entretenir les vêtements, acheter à manger, préparer des repas, etc. Et donc c'est cette ironie aussi un peu piquante qui sous-tend cette œuvre donc d'Agnette Messager. Ces pièces, donc comme je disais, ce ne sont que quelques exemples. Et ce qu'elles montrent à l'image des pièces de l'exposition canonique Women House qui avait eu lieu en 72 en Californie à l'initiative du programme d'études féministes de CalArts, ce qu'elles montrent, ces pièces, c'est que les tâches domestiques ont longtemps constitué soit le seul horizon professionnel, soit un prolongement professionnel de ces tâches dites naturelles. Et cette remise en question des rôles de genre au travail ne va être que renforcée avec la désindustrialisation. En tant que fait social, le travail, par définition, participe à assigner et entretenir des rôles sociaux. Je vous invite notamment à ce titre à lire un article de l'historien Eric Hobsbawm qui a écrit donc cet article intitulé « Sexe, symbole, vêtements et socialisme » en 78, qui est un article absolument passionnant sur la façon dont les œuvres qui ont représenté le travail au 19e et au début du 20e siècle sont des vecteurs d'affirmation du pouvoir de l'État, des entreprises que des rapports de force genrés. Je dirais que Hobsbawm, ça a été l'un des premiers, en plus, de façon assez étonnante, en tant qu'historien, à faire une histoire, disons, sexuée des représentations du travail. J'en reviens donc à cette question de l'industrie. Dans le cas de l'industrie, donc, je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a une partition assez marquée des différences entre métiers de femmes et métiers d'hommes selon des critères de force physique. Et le démantèlement progressif de certains secteurs au moment de la désindustrialisation va mettre à mal l'affirmation des rôles de genre. Et probablement, est-ce là une des lignes de force du travail d'un des artistes qui a, disons, beaucoup travaillé sur la question du travail, Jeremy Deller. Ici, donc, là, je vous ai mis une image qui est assez révélatrice, enfin, qui figure dans sa vidéo, qui s'intitule donc, « So many ways to hurt you ». Et donc, c'est une œuvre qu'il va réaliser sur la figure d'Adrian Street, que vous voyez donc, à droite, qui était promis donc, à une carrière de mineur au Pays de Galles, une carrière de mineur qu'il devait embrasser, comme son père et son grand-père avant lui. Mais donc la fermeture des mines dans les années 80 va mettre complètement à mal ce projet. Et il va se reconvertir, mais se reconvertir dans un métier insolite qu'il va choisir, qui est celui de catcheur. Et il va adopter un style qui est à mi-chemin entre le bodybuilding et le glam, et va incarner donc un personnage de catcheur qui se met en scène dans ses combats avec un maquillage, avec des perruques et des tenues extravagantes qui sont toutes de couleurs et de paillettes et qu'il va dessiner et coudre lui-même par ailleurs. Donc il va devenir aussi couturier et designer de ses propres tenues. Ce qui est intéressant, c'est que son personnage, en fait, il confine aux dragues et il désarçonne ses adversaires sur le ring, qui vont eux-mêmes surjouer la fureur de devoir affronter soi-disant une femme, ou en tous les cas un homme qui se féminise là où il devrait incarner une force masculine indéniable. Et c'est donc non seulement dans cette œuvre une remise en question des structures sociales de genre qui se jouent, mais également une mise en scène aussi du genre des loisirs populaires, tels par exemple le catch, en tant que ces loisirs-là participent aussi de la construction des identités, en l'occurrence des masculinités. Donc, je ne vous l'ai pas dit, mais donc cette image, c'est une image de Adrian Street avec son propre père mineur, et donc à l'entrée de la mine avec donc les collègues en arrière-plan. Ce que va produire également la désindustrialisation en Europe et en Amérique du Nord, c'est plus fondamentalement et concrètement une vague de chômage notoire. Et je prendrai à nouveau un exemple britannique pour signifier l'un des défis qui a été posé aux représentations du travail. En l'occurrence, là, un défi posé à la question du manque de travail. Comment on représente le chômage? Comment on fait pour représenter quelqu'un qui n'est plus au travail? Et je voudrais pour ça parler un petit peu de cette œuvre de Paul Graham, donc un photographe britannique, qui va réaliser entre 84 et 85 toute une série d'images de demandeurs d'emploi dans les salles d'attente, donc attendant d'être reçus par des officiers et officières du service public qui vont essayer de leur trouver du travail. Il y a plusieurs choses qu'on peut remarquer. C'est que donc, ce sont pour la plupart d'anciens ouvriers qui en fait, vont essayer de se mettre dans une mise, dans une tenue la plus respectable possible, histoire de correspondre aux nouveaux emplois qu'on va leur proposer, c'est-à-dire des emplois du tertiaire. Donc, il y en a beaucoup qui vont se présenter dans des vestes de costume ou dans des pardessus qu'ils essayent d'avoir les plus chics possibles. L'autre chose que vous remarquez, j'imagine, c'est que le cadrage ici sur cette image n'est pas du tout droit. Et cela n'est pas un hasard, c'est que Paul Graham a dû demander une autorisation aux services, disons, aux équivalents de Pôle emploi pour donc prendre ses photos. Or, cette autorisation, elle lui a été refusée. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est rendu dans ses salles d'attente et il avait donc un petit 35 mm avec lui, donc un petit appareil photo, qu'il déclenchait comme ça discrètement sur le côté pour réussir à avoir ces images, histoire de ne pas donc être pincé par l'administration et qu'on ne lui interdise pas donc ces clichés. Et donc il va s'insérer dans ces salles d'attente à hauteur de siège ou à même le sol, il va réaliser ces images donc avec son moyen format, son appareil moyen format choisi donc pour sa taille discrète et sa maniabilité. J'aimerais revenir un instant aussi sur Jeremy Deller. Je vous disais, c'est un des artistes qui a énormément travaillé, un artiste contemporain qui a énormément travaillé sur le travail, pour peut-être rappeler cette œuvre qui est assez connue, donc La bataille d'Orgreave, Donc, événement qui a eu lieu en 1984 autour de la fermeture d'un puits de mine, que Jeremy Deller va réactiver sous la forme d'une performance, également d'une vidéo documentaire et d'une installation sous forme de frise chronologique. Dans cette installation, vous avez ce blouson qui est plein de pins. Qu'est-ce qui se passe pendant la bataille d'Orgreave ? C'est un affrontement, c'est l'aboutissement en fait d'un affrontement de plusieurs mois, des ouvriers qui sont en grève, qui ne veulent pas la fermeture des puits de mine, et de policiers qui veulent justement permettre cette fermeture. Et in fine, ce qu'on voit à l'image, c'est Jeremy Deller qui fait revivre aux ouvriers et aux policiers de l'époque, mais aussi à des acteurs, cet affrontement, qui donc va voir les ouvriers écrasés à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe au cours de ce conflit, c'est que, en définitive, la BBC va montrer que... donc, la BBC qui va retransmettre l'événement lui-même va monter les images à l'envers et va montrer que c'est les ouvriers qui ont chargé en premier plutôt que les policiers, car dans la réalité, c'était les policiers qui ont chargé. Et ce que veut essayer de faire Jeremy Deller en réalisant cette œuvre, c'est de rétablir la vérité au sujet de l'événement historique. Là, on est vraiment dans l'événement historique et son double, en quelque sorte. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est comment on luttait le plus longtemps possible des ouvriers pendant des mois et des mois afin de protéger leur emploi et faire en sorte de ne pas le perdre. Comment on garde image de tout ça et comment on garde une mémoire et une juste mémoire de tout ça. Une dernière œuvre à ce sujet, ce bleu de costume de Jean-Luc Moulin que peut-être vous connaissez. Donc Jean-Luc Moulin, pardon, qui est lui aussi un artiste qui a beaucoup abordé les questions du travail. Et donc, il réalise dans cette pièce une fusion des usages passés et présents de la veste de travail, donc à l'image de ce blouson-là d'ouvrier qui est bardé de pins et de badges. Ici, Jean-Luc Moulin va accomplir donc une fusion de fonctions à travers donc ce bleu de costume qui est une sorte d'uniforme de travail transclasse qui flatte autant le cadre de porter un bleu avec style que l'ouvrier de porter le costume tout en ayant de la practicité dans le design des pièces. Et donc on voit qu'il y a une ligne de colle qui disparaît dans le design de cette œuvre, qui feint en quelque sorte l'apaisement des mouvements sociaux passés, qui sont nés autour de la désindustrialisation, et une soi-disant, je dis bien soi-disant, réconciliation de la lutte des classes dans cet uniforme de travail d'aujourd'hui. Et en dépit de ces captations, ce retour de la veste de travail comme une pièce du vestiaire de la mode actuelle peut être lu, parce que ça ne vous aura pas échappé, on s'habille beaucoup aujourd'hui, c'est très à la mode de porter des vestes et des bleus de travail pour avoir l'air chic. Et donc, en dépit de ces captations tout à fait réelles, ce retour de la veste de travail comme une pièce donc, du vestiaire peut être lu à l'aune du rapport au travail des contemporaines et des contemporains, aux yeux desquels, finalement, les métiers manuels et artisanaux acquièrent une popularité croissante face aux, entre guillemets, « bullshit jobs », donc boulot de merde, emploi de merde post-industriel que décrivait donc, l'anthropologue David Graeber, qui a disparu il y a 2 ans désormais, je crois. Ces bullshit jobs, donc comme les appelait David Graeber, sont le revers en fait, d'une attente de sens de la vie professionnelle qui s'accentue à mesure que les mondes du travail se dématérialisent et ont davantage trait au service. Il ne s'agit pas là de dire qu'il y avait davantage de sens avant la désindustrialisation et qu'en somme, c'était mieux avant. Ce n'est pas du tout mon propos. Il s'agit là de souligner, avec l'aide aussi de l'historien Georges Vigarello dans son « Histoire de la fatigue » publié en 2020, que ce qui s'est accentué depuis la fin des années 80 a conduit à l'apparition d'un nouveau type de fatigue dans les mondes du travail, un type de fatigue qui est une fatigue mentale d'individus qui perdent le cap, qui perdent la motivation ou qui ont du mal à comprendre leur place dans les mondes du travail. Et donc ça, c'est l'une des autres lignes de force, je pense, des représentations contemporaines du travail, c'est la question de la perte de sens. J'imagine que certaines et certains d'entre vous connaissent bien cette pièce de Julien Prévieux, qui est donc les fameuses lettres de non-motivation à travers lesquelles l'artiste a répondu à des offres d'emploi auxquelles justement, des emplois qu'ils ne voulaient absolument pas exercer. Et donc, chacune de ces réponses est en quelque sorte une réponse extrêmement ironique envers le supposé employeur, à qui il fait comprendre, par exemple, qu'il ne comprend pas pourquoi il y a, par exemple, je vais le citer, « Je n'ai pas saisi le rapport de cause à effet entre une envie de réussir apparemment débordante et un salaire si réduit ». Et donc, il y a une moquerie sans retenue qu'il va exprimer dans ses très nombreuses lettres de non-motivation. Et donc, le refus de l'emploi par le candidat lui-même ayant été la raison de ses non-candidatures, il va en fait inverser, saper le rapport de force avant même de désirer l'emploi, en quelque sorte. Et pour renverser ce rapport de force, pour renverser le fait qu'il ne trouve absolument aucun sens dans ses sales boulots, il va recourir à l'absurdité dans son argumentaire. C'est une absurdité en fait, qui vaut comme, en quelque sorte comme refus de se soumettre à des conditions d'emploi présentées comme soi-disant épanouissantes, alors même qu'elles concernent des emplois précaires. C'est une autre stratégie qu'emploie l'artiste canadien Ken Loom dans Melishum Hates a Job. C'est une œuvre qui a été longtemps sur la façade du centre d'art Kunstinstitut Mely, donc qui avant était le centre d'art Witte de Witte à Rotterdam. Et donc le Canadien Ken Loom va réaliser un portrait de Melishum, il s'appelle réellement Melishum, sous la forme d'un grand panneau d'affichage. Et donc finalement, quand on regarde l'image, si on s'intéressait que à la photographie, plutôt qu'à l'image, à la photographie, on a l'impression que cette Melishum a, disons, une attitude assez impassible, que ça pourrait être autant une image publicitaire, et c'est ce vers quoi renvoie le format du 4x3. Sauf qu'en fait, donc Ken Loom adjoint à cette photographie ce message qu'elle déteste son boulot. Et vous, en fait, on a finalement déjà quelques indices dans l'image photographique. Elle est photographiée seule. Et ce à quoi nous enjoint cette œuvre, c'est à considérer, en fait, d'une part, la solitude que ressentent certaines et certains employés au cours de cette mutation économique qui envoie nombre de personnes dans des emplois tertiaires dont ils ne comprennent plus vraiment les tenants et les aboutissants de leurs fonctions. C'est donc énormément la question de la solitude des luttes qui est en jeu dans l'œuvre de Ken Loom. L'individualisation des rapports sociaux également, et l'insatisfaction, et même en l'occurrence la haine pour son emploi, qui en fait devient presque inexprimable si elle est portée toute seule. Et c'est ça que aussi souligne Ken Loom. Et plus qu'une révolte contre les conditions de travail, ce qu'on avait pu voir un peu auparavant, il semble que Ken Loom est touché là à une spécificité des rapports au travail dans cette fin des années 80, qui est la révolte passive, qui est non plus une révolte contre les conditions, mais contre le travail même, contre l'idée même d'adhérer, d'accepter que c'est une nécessité de travailler. Une dernière œuvre dont je voudrais vous parler ici pour aborder la question du sens du travail, de la perte de sens du travail. Une œuvre peut-être un peu plus, disons, optimiste à ce sujet. C'est cette œuvre d'Emmanuel Lenné qui s'entretient avec trois travailleurs et travailleuses, notamment un certain Thierry qui travaille dans une usine de fabrication de tisane et qui en fait exprime une grande fierté, une grande joie à avoir transformé une empaqueteuse de thé en une empaqueteuse de tisane. Parce qu'en fait, donc, je l'ai appris en prenant connaissance de l'œuvre, les techniques ne sont pas exactement les mêmes. Et ce qui se passe en fait dans cette œuvre vidéo d'Emmanuel Lenné, c'est qu'on voit toute la fierté et en fait toute l'intimité qui a été construite par l'ouvrier avec sa machine, au point qu'il est capable de la dérégler, mais sans la casser, et qu'il est capable, c'est sur lui en fait, c'est sur son expertise, sur son rapport étroit à la machine, que son entreprise peut fonctionner. Et c'est ça aussi que peuvent montrer certaines de ces œuvres, c'est comment finalement se redistribue d'autres quêtes de sens au travail. Et là, en l'occurrence, c'est la ruse. C'est littéralement la capacité de l'ouvrier à ruser avec son outil et à contrer, en quelque sorte, la standardisation de la machine pour en faire une machine adaptée. Dernière thématique que j'aimerais aborder avant de conclure cette intégration, c'est une thématique, je pense, qui est extrêmement importante, si ce n'est l'une des plus importantes dans les représentations contemporaines du travail, c'est la question de la représentation des identités, des marges et de l'inclusion au travail à travers les œuvres. Kapwani Kiwanga, ici, réalise, donc c'est une ancienne d'ailleurs étudiante du Frénois, et c'est une œuvre qu'elle a réalisée en étant étudiante au Frénois à Tourcoing. Et donc elle va filmer une femme agent d'accueil et d'entretien des toilettes d'une gare parisienne qui voit passer chaque jour des centaines d'usagères et d'usagers à qui elle dit bonjour, à qui elle souhaite bon voyage, mais qui ne lui répondent pas en retour. Et donc, en dépit de ces salutations qui sont adressées à chacune et chacun, elle va recevoir des réactions d'indifférence. Et en voix off, on entend qu'elle se plaint, qu'elle s'en plaint. Elle dit, je cite par exemple, « Tout ce que nous voulons, c'est de la reconnaissance. » Employant un « nous » qui fait référence aux Africaines et aux Africains émigrés dont l'espoir d'amélioration de leurs conditions de vie en France achoppe sur le différentiel d'appréciation des métiers. Tandis qu'en Afrique, souligne-t-elle, il n'y a pas de bons ou de mauvais métiers, je la cite, hein, et qu'elle considère son métier actuel comme un métier comme un autre, elle prend la mesure de l'exclusion symbolique à laquelle on la cantonne dans cet emploi, donc de pour le dire vulgairement, comme on considérait cela vulgairement, dame pipi. Et le montage que réalise Kapwani Kiwanga, il est extrêmement intéressant à ce titre, c'est qu'il va souligner la solitude dans laquelle cette femme, elle se trouve. Donc on ne la voit jamais parler à l'écran. Tout est en voix off. Ça n'est que des plans statiques qui la dépeignent, qui la montrent. Et de même, l'artiste va restituer l'absence de considération pour ce qu'elle est en ne filmant jamais le corps en entier, le corps de cette femme en entier. En fait, soit vous allez avoir des plans, donc par exemple un buste qui va être filmé en travelling, ou bien on va voir le bas du corps qui est filmé, mais seulement parce qu'il est pris dans un plan pendant qu'elle nettoie le sol des toilettes. Et ce sont donc essentiellement des plans rapprochés qui vont contribuer à restituer donc cette vision parcellaire de sa personne. Tandis que, par exemple, les plans sur le hall d'arrivée de la gare, eux, sont des plans larges. Et finalement, en priant pour que, je la cite, les gens ne la voient pas comme la dernière des choses, la protagoniste de ce film assez court, de 3 minutes, livre ce qu'elle estime être la raison d'être à cette invisibilisation, c'est-à-dire la dévalorisation culturelle de la saleté qui se projette aussi sur sa personne. Ici, donc, je continue sur cette question en fait, des marges de la société et en particulier de comment la société pousse à ces marges des personnes racisées à qui elle essaye soit de confier des emplois qu'elle juge dévalorisants, soit qu'elle l'empêche complètement de travailler. Et donc c'est le cas de cette œuvre de Prachaya Pingtung qui va, disons, prélever un formulaire de l'ambassade de France à Bangkok qui, en fait, consiste en une décharge, celle qu'un émigré renoncera à travailler. Et donc ça, c'est une décharge disant, moi, émigré thaïlandais sur le sol français, j'accepte le fait qu'on m'interdise de travailler en France et de prendre un emploi en France. Ce que va faire Prachaya Pingtung, c'est qu'en fait, il va décider de photocopier en des centaines et des centaines et des centaines d'exemplaires ce formulaire qu'il va disposer selon une pile qu'il va mettre donc dans l'espace d'exposition. Donc c'est une pièce qui, par exemple, a été exposée plusieurs fois dans sa galerie, GB Agency, histoire de faire savoir publiquement et en de très, très nombreux exemplaires, le plus d'exemplaires possible, le sort qu'on réserve aux travailleurs et travailleuses immigrées, aux personnes qui souhaiteraient pouvoir travailler en France et à qui on interdit cela formellement. Dernière œuvre assez rigolote, finalement, qui, elle aussi, repose sur des questions de montage et de rapprochement par le montage de situations éloignées. Donc, une œuvre de Mika Rothenberg, œuvre vidéo qui met en relation des choses extrêmement éloignées dans l'espace et culturellement. Donc vous avez une production de caoutchouc dans la région indienne du Kerala, une exploitation de salade ramassée par une main-d'œuvre d'origine mexicaine en Arizona et des employés d'un institut de beauté originaire d'Asie. Et pour donner à voir l'extrême diversité et l'ampleur des biens et des services délocalisés aujourd'hui dans la société productive, l'artiste a formalisé la réunion de ces trois activités. Elle va donc produire non seulement des contractions au montage pour les rapprocher, mais surtout elle va créer des décors fictionnels qui vont faire coexister des tâches qui normalement ne peuvent pas exister ensemble au même endroit. Et tout ça, ça va même se voir de façon extrêmement prégnante. Vous le voyez à l'image en haut. À un moment donné, on voit dans le film qu'il y a des broyeuses qui vont piler de la salade, du caoutchouc et des emballages de cosmétiques et qui vont en fait rendre tout cela non seulement inutilisable, mais compacter en fait les produits, les déchets de ces trois espaces géographiques et culturels où sont produits donc cette fameuse salade, ce fameux caoutchouc et ces services esthétiques. Et donc, on va voir à un moment donné cette machine absurde compresser les salades et tout ça et produire des cubes qui n'ont absolument finalement aucun sens, mais qui sont la concaténation de cet éloignement, de cette délocalisation qui est relocalisée en fait, en quelque sorte à travers cet objet. Et donc, de la sorte, Mika Rothenberg réunit les obsessions finalement antagonistes de consommatrices et consommateurs occidentaux, celle à la fois de la propreté à travers des scènes de rituels d'hygiène et de massage, celle du traitement des déchets qui, dans un cas comme dans l'autre, sont bien souvent déléguées à une main-d'œuvre précarisée, si ce n'est racisée. Pour conclure ce panorama qui aurait pu durer encore longtemps, j'aurais pu vous montrer encore beaucoup d'autres œuvres, mais on va laisser la parole à d'autres personnes. Donc pour conclure tout cela, j'aimerais dire quelques mots. D'une part, dire que représenter le travail au XIXe siècle et au cours d'une grande partie du XXe siècle, ça a participé de l'idéologie moderne du progrès infini et du progrès social, objectif auquel aurait œuvré et était mise au service la main-d'œuvre. Cette idéologie, elle parcourt l'essentiel du XXe siècle. Et l'être humain est considéré encore au XXe siècle comme étant maître de la nature, que par le travail, il transforme et maîtrise et en fait une source d'énergie. Vous me voyez venir, c'est de là à peu près qu'est venue cette exposition Chaleur humaine, donc que nous avons co-réalisée avec Anna Collin. Donc, juste pour conclure donc quelques mots, il y a une mystification en quelque sorte qui a longtemps prévalu et qui a consisté en l'idée que la nature est maîtrisable et que cette maîtrise de la nature est souhaitable dans la mesure où elle fournirait l'énergie nécessaire aux rêves et aux ambitions de progrès social des 19e et 20e siècles. Le travail, ça a été le moyen de ce progrès. Et or, on a pu observer par ces quelques œuvres que je vous ai montrées qu'elles procédaient à des sortes de dénaturalisation des mondes du travail, tels que l'art moderne avait iconifié le travail et en quelque sorte idéalisé et neutralisé, en tous les cas empêché parfois sa dimension critique. Et s'il est un fil rouge dans cette histoire visuelle du travail, ce serait sans nul doute cette question aussi des affects qu'il suscite. On l'a vu à travers la question du sens, on l'a vu aussi à travers donc, cette œuvre de Kapwani Kiwanga que je montrais juste avant. Les artistes contemporains vont exprimer des affects afin de fournir des récits justes qui ne sont pas nécessairement vrais, on le voit bien avec cette œuvre de Mika Rothenberg, mais des récits entre guillemets justes qui sont produits à travers ces œuvres. C'est ça qui a aussi l'enjeu de ces représentations des mondes du travail. Et donc leur représentation contemporaine réussissent, pour certaines, à faire éprouver de possibles expériences vécues, ce grâce à des formes donc, de démystification qui se passent dans les œuvres. Le travail, donc, dans ces œuvres, il n'est plus représenté comme le motif vecteur d'une politique des masses, il est celui d'expériences individuelles dont la difficulté à partager le quotidien est prise en relais par cette artification du sensible et du rapport donc, sensible au travail. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Camille Richard. Je ne sais pas si on peut peut-être prendre une ou deux questions avant de passer à la table ronde suivante. Est-ce que vous avez des questions ?